Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. ActuVu, c'est le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse qui reprend toute l'actualité de la semaine. Lutter contre les violences des mineurs, c'est le nouvel objectif du gouvernement qui promet un Grenelle pour trouver des solutions. Les élections législatives indiennes ont démarré ce vendredi, le parti du Premier ministre est donné vainqueur, mais c'est sans compter sur l'opposition. Tesla va supprimer plus de 10% de ses effectifs à travers le monde. La cérémonie des Jeux Olympiques se fera-t-elle sur la scène? Et le projet de fusion de l'audiovisuel public sous une structure commune, une nouvelle fois dans les cartons? Mais pour commencer, on accueille tout de suite Charlotte pour le affluoter.
Israël a répliqué tôt vendredi à l'attaque de drones et de missiles lancée le 13 avril par l'Iran contre son territoire. Trois explosions ont eu lieu près d'une base militaire. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a dit que plusieurs objets volants avaient été abattus. Le plus grand squat de France à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne a été évacué mercredi après presque 3 ans d'occupation. Ce sont environ 300 migrants qui ont dû quitter le bâtiment désaffecté. Le porte-parole du collectif Le Revers de la Médaille a alerté sur une dégradation de la situation pour les sans-abri à l'approche des Jeux Olympiques. Mayotte, place nette, est la nouvelle opération de grande ampleur qui a commencé mardi. Le ministère de l'Intérieur a pour but de lutter contre la crise migratoire, l'habitat insalubre et l'insécurité grandissante. Ce déploiement intervient presque 1 an après la précédente opération nommée Wambushu. 36,5 millions d'euros en 2023, c'est la rémunération perçue par le dirigeant du groupe automobile Stellantis, Carlos Tavares. Les actionnaires de la grande entreprise ont d'ailleurs approuvé à 70% le salaire de leur patron ce mardi. Mais ce chiffre mirobolant, qui pourrait être associé aussi au salaire de Kylian Mbappé par exemple, a provoqué une nouvelle vague d'indignation en France. Depuis lundi, les utilisateurs de deux roues, donc les motos, scooters, etc., doivent désormais faire passer leur véhicule au contrôle technique. Beaucoup de motards ont déjà dénoncé cette nouvelle mesure car ils estiment qu'elle n'est pas nécessaire, car tous entretiennent leur machine. Les motards en colère pensent aussi qu'il s'agit d'une taxe déguisée. Le reste à charge lors d'une consultation médicale va passer de 1 à 2 euros le 15 mai prochain. En gros, cela veut dire que la contribution du patient qui ne fait l'objet ni de remboursement de l'assurance maladie ni de la complémentaire santé doublera.
Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ! Mais qui elle est celle-là ?
Quelle indignité.
Ce jeudi 18 avril, Gabriel Attal était à Viry-Châtillon, ville d'Essonne où Chemseddine avait été tué au début du mois. À la demande d'Emmanuel Macron, le Premier ministre a présenté les grandes lignes du Grenelle sur la violence des mineurs. Un long discours avec beaucoup d'infos. Tristan, tu nous décryptes les 3 points à retenir absolument.
Oui, mais avant ça, petit point vocabulaire. Grenelle, on voit ça écrit un peu partout. Dans le langage médiatique, ça désigne une grande discussion sur un thème spécifique qui permet ensuite de prendre des décisions. Ça veut dire que pour l'instant, rien n'est arrêté. Gabriel Attal a simplement présenté la feuille de route du gouvernement pour le débat à venir. Et pour le Premier ministre, l'éducation, ça commence à la maison. C'est pour ça qu'il faut, selon lui, responsabiliser les parents démissionnaires. L'idée, c'est de leur imposer des travaux d'intérêt général et même de faire payer des amendes à ceux qui ne se rendent pas à une convocation du juge pour enfants.
Et autre souhait de l'exécutif, sanctionner les élèves perturbateurs.
En inscrivant une mention spéciale dans leur dossier Parcoursup, une inscription en cas de perturbation grave dans un établissement scolaire qui aurait des conséquences directes dans l'obtention des diplômes. Le Premier ministre souhaite aussi retirer des points sur le brevet ou le bac des élèves concernés. Pour effacer la mention ou retrouver ces points, il faudrait alors effectuer des activités d'intérêt général.
Et enfin, Matignon veut repenser le jugement des mineurs.
Aujourd'hui, un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va ouvrir le débat pour voir si des atténuations à l'excuse de la minorité sont possibles et souhaitables. Il doit aussi réfléchir à la mise en place d'une comparution immédiate devant le tribunal pour les jeunes à partir de 16 ans, au lieu de 18 ans aujourd'hui. Une mesure qui permettrait d'accélérer les procédures judiciaires.
Gabriel Attal se donne 8 semaines pour faire aboutir cette réflexion autour de la violence chez les jeunes. Un premier bilan doit avoir lieu dans 4 semaines. La Russie invitée aux 80 ans du débarquement en Normandie, mais sans Vladimir Poutine.
Mission Libération, qui est l'organisateur de l'événement, justifie cette décision par la guerre d'agression en Ukraine. Des représentants russes seront quand même présents pour honorer les sacrifices des peuples soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale, mais pas de Vladimir Poutine. En 2019, pour le 75e anniversaire du débarquement, il avait déjà été écarté de la cérémonie. La situation dans l'est de l'Ukraine commençait alors à s'enliser.
Les bourdes devenaient trop nombreuses, trois membres du cabinet de la porte-parole du gouvernement, Priska Tevno, ont démissionné.
Le directeur de cabinet William Hellman, son adjointe et la chef de cabinet. Information révélée par Marianne dimanche dernier, les trois conseillers semblent payer les couacs des derniers jours. Le 3 avril, Priska Tevno annonce devant la presse un attentat déjoué lors du week-end de Pâques, mais quelques minutes plus tard, gros rétropédalage. Finalement, plus d'attentats déjoués et des excuses présentées. Pendant la crise agricole, elle avait aussi assuré qu'Emmanuel Macron recevrait les agriculteurs avant la fin de la semaine, alors que dans le même temps, le président venait de dire l'inverse en Conseil des ministres.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you. Be proud of you.
Depuis vendredi, les élections législatives ont commencé en Inde. Près de 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes pour élire le député pour les 5 prochaines années. Une élection aux enjeux énormes, Thomas.
Oui, déjà, ce sont des élections hors normes parce que faire élire près de 1 milliard de personnes, c'est un véritable casse-tête. Les élections vont donc s'étendre sur 6 semaines pour permettre aux 28 États de l'Inde de pouvoir voter. Après 2 mandats consécutifs, le chef du gouvernement sortant, Narendra Modi, ultranationaliste hindou, est candidat pour un 3e mandat. Sous ces 2 mandats, l'Inde s'est développée. Le pays est devenu la 5e puissance mondiale, juste devant le Royaume-Uni.
Mais à l'intérieur du pays, les Indiens sont très divisés.
Oui, car les inégalités n'ont cessé d'augmenter, ainsi que les violences envers les minorités religieuses. La situation agricole est également critique, avec des pénuries d'eau, des inondations, ainsi que des conditions météorologiques qui endettent fortement les agriculteurs. Les dernières élections de 2019 avaient été par ailleurs marquées par la corruption, une situation que comptent bien utiliser les candidats de l'opposition pour renverser Modi. Une union de 27 partis appelée India s'est formée et le candidat le plus dangereux, c'est Arvind Kejriwal du parti Aam Aadmi qui a déjà battu le parti du chef du gouvernement à 2 reprises pour le contrôle de New Delhi. Un autre candidat, Rahul Gandhi, pourrait également jouer les troubles faits, mais cette union reste faible et fragmentée. En cas de victoire, Modi a déjà promis de faire de l'Inde une des 3 principales économies mondiales d'ici 2027.
Et rendez-vous le 4 juin prochain pour connaître les résultats des élections législatives indiennes. Une semaine après l'attaque au couteau en Australie, 2 Français récompensés pour leurs actions héroïques.
Oui, le bilan aurait pu être bien plus lourd sans l'intervention de Silas Despreaux et Damien Guéraud. Ce dernier a repoussé l'assaillant à l'aide d'un poteau dans un escalator. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que Damien Guéraud se verra offrir la citoyenneté australienne pour son extraordinaire bravoure.
Et puis la ville de Dubaï paralysée par des pluies diluviennes.
254 mm de pluie en une journée, soit 2 ans de précipitations. Les Émirats Arabes Unis et Dubaï n'ont pas été épargnés par ces inondations. Les écoles et l'aéroport ont dû être fermés, du jamais vu depuis 1949. La tempête a fait 1 mort à Dubaï. À Oman, le bilan, lui, s'élève à 18 victimes, dont 9 écoliers.
Le temps se gâte chez Tesla, le groupe se prépare à supprimer 14 000 emplois dans le monde. Alors ça peut paraître étonnant quand on connaît le développement des véhicules électriques, Alexandre.
Étonnant, oui, c'est le mot parce que 14 000 emplois, c'est 10% de ses effectifs, c'est énorme. Mais en fait, ce n'est pas tant une surprise. Tesla ne se porte pas très bien. Au dernier trimestre 2023, le groupe d'Elon Musk a perdu sa place de leader, dépassé par le constructeur chinois BYD, une entreprise largement subventionnée par le gouvernement chinois. En plus de cette concurrence low cost, Tesla a connu une croissance impressionnante ces dernières années. L'entreprise comptait presque 141 000 employés fin décembre 2023 contre 2 fois moins en 2020. Finalement, c'était peut-être un peu trop et cette croissance a généré des doublons. Ce sont de ces doublons qu'Elon Musk souhaite se séparer.
À cela s'ajoutent des ventes en net recul.
Moins 8,5% en un an, près de 150 000 véhicules du groupe américain ne trouvent pas d'acquéreurs. La demande au niveau mondial est en baisse et ça s'explique en fait. Il y a eu tellement de voitures électriques vendues ces dernières années qu'on arrive maintenant à un plateau. Alors forcément, l'annonce de ces suppressions d'emplois n'a pas plu au marché. L'action a chuté immédiatement de 3% à New York. Mais pas de quoi non plus faire chavirer le géant de l'électrique américain, il reste valorisé en bourse à près de 500 milliards de dollars.
Pour essayer de faire face à la concurrence, Tesla va lancer un modèle plus accessible à 25 000 euros quand même, un lancement prévu pas avant 2025. Le mouvement MeToo arrive à l'hôpital.
C'est l'infectiologue Karine Lacombe qui accuse l'urgentiste Patrick Peloux d'harcèlement sexuel et moral. Et depuis, les témoignages de médecins ou d'étudiantes affluent sur les réseaux sociaux. Patrick Peloux conteste avec force les accusations portées contre lui. Dans une enquête publiée en 2021 par l'Association nationale des étudiants en médecine de France, près d'une étudiante sur deux racontait avoir déjà reçu une remarque sexiste pendant un stage.
L'hebdomadaire Marianne pourrait être bientôt vendu.
Daniel Kretinsky, actuel propriétaire de Marianne, étudie cette option. Alors l'info n'a pas encore été confirmée par le groupe, mais ce qui est sûr, c'est que la ligne souverainiste radicale convient de moins en moins à ce milliardaire pro-européen. Pourtant, Marianne se porte bien, les ventes sont en forte augmentation depuis mars dernier et le lancement d'une nouvelle formule.
Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
Et si la cérémonie d'ouverture des Jeux ne se faisait pas sur la Seine, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'un plan B, voire d'un plan C lundi matin. Il ne serait activé qu'en cas de menace potentielle extrême ou d'attentat terroriste avant le début des Jeux. Bon, le président de la République n'a pas non plus donné trop de détails, Mathieu.
En fait, il n'a donné qu'un détail. Alors, il est important, il faut le dire. Il a donné le lieu où pourrait se dérouler cette cérémonie d'ouverture en cas de nécessité. Il a évoqué deux possibilités. D'abord, celle de tout limiter au Trocadéro. Il faudrait alors réduire, redimensionner, mais on pourrait préserver l'aspect artistique de la cérémonie notamment. L'autre solution de repli du chef de l'État, c'est un rapatriement au Stade de France, jusque-là exclu par les autorités. Étonnant, voire impossible, puisque ce serait en plein milieu des épreuves de rugby à 7.
Mais à la mairie de Paris, on ne veut pas entendre parler de ce plan B.
À chaque intervention dans les médias, le même discours, la cérémonie aura lieu sur la Seine. Tout sera prêt le jour J. Il faut dire qu'il y a un enjeu d'image derrière. Le comité d'organisation a toujours vendu les JO de Paris comme des jeux populaires. Ne pas faire cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, ouverte au grand public, serait un véritable camouflet. L'immense casse-tête sécuritaire que représentent ces festivités avait déjà forcé l'organisation à réduire la jauge de spectateurs à 326 000 personnes contre les 600 000 espérés initialement.
Événement dans le monde du tennis, Rafael Nadal a fait son retour à la compétition cette semaine.
Il n'avait plus joué sur le circuit ATP depuis janvier. Nadal de retour sur les courts. La nouvelle était attendue et même s'il s'est incliné au deuxième tour du tournoi de Barcelone mercredi, l'essentiel était ailleurs. Car l'Espagnol joue tout simplement sa dernière saison au plus haut niveau. Pour tous ses fans, et même les fans de sport en général, ce sont les derniers moments d'une légende du tennis. Alors il faut profiter de ces moments devenus rares à cause des blessures. Rafael Nadal espère que son corps tiendra au moins jusqu'à Roland-Garros, où il a remporté 14 titres, un record, histoire de s'offrir un frisson sur la terre où il a construit sa légende.
Une série consacrée à Brigitte Macron est actuellement dans les cartons.
C'est ce qu'a annoncé la société de production Gaumont. Brigitte, une femme libre, c'est le nom de cette série qui sera consacrée, là je vous cite le communiqué, à la trajectoire romanesque de la première dame. Ça vend du rêve, hein, franchement. On aura droit à 6 épisodes de 45 minutes chacun. Le show sera drivé par Bénédicte Charles et Olivier Pouponneau, qui ont pour principal fait d'armes la série Mirage, diffusée sur France 2 en 2020. En revanche, pas de date de sortie annoncée, désolé. Ce sera seulement le deuxième biopic consacré à une première dame après Bernadette, le film consacré à Bernadette Chirac l'année dernière.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
France Télévisions et Radio France, bientôt sous la même bannière. Depuis sa nomination au ministère de la Culture, Rachida Dati pousse pour un regroupement de l'audiovisuel public. Le projet qui doit être présenté début mai commence à prendre forme, Valentine.
Prenez tous les groupes du service public, mélangez-les, secouez le tout et vous obtiendrez France Média. C'est bien le nom de la future société qui regrouperait France Télévisions et Radio France. Une espèce de géant de l'audiovisuel qui aurait pour but de maintenir le service public au plus haut des audiences. Pour appuyer ce projet, la ministre Rachida Dati nous parle regroupement des forces. Se regrouper contre un ennemi commun, la désinformation. Mais ça, c'était en fait la raison officielle. En réalité, l'objectif prioritaire qu'on cherche un peu à camoufler, c'est de moins dépenser. Aujourd'hui, le service public possède un système de financement qui ne répond plus à ses besoins. Depuis la fin de la redevance TV en 2020, comment est-ce qu'on arrive à financer l'audiovisuel public ? Et bah c'est hyper simple, en fait c'est assuré par une fraction de la loi TVA, mais qui est trop insuffisante pour garantir ses services. Et en plus, le gouvernement doit maintenant trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour faire reculer le déficit public. La fusion semble donc, à leur sens, un moyen de faire des économies à court terme. Mais avec cette orientation, on peut parier qu'on n'évitera pas de nouveaux licenciements. Cette fusion, ça rappelle un peu le spectre de l'ORTF, d'où l'inquiétude des journalistes pour l'indépendance et le pluralisme de l'information.
Et cette réforme est fortement inspirée par une proposition de députés et de sénateurs dans un texte co-signé le 24 mars par Laurent Lafon et Quentin Bataillon, un texte qui est en majorité rejeté par les rédactions du service public. Le ministère souhaite déposer un projet de loi de réforme pour l'automne. Merci à tous les chroniqueurs pour leur participation. Également, merci à Pierre à la régie. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur TikTok. On se retrouve la semaine prochaine.